France Musique.
Bonsoir Lionel, on vous quitte pour le week-end, mais c'est pour mieux vous retrouver lundi avec vos invités en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
This is a electronic instrument that I have.
Et tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable et la musique concrète.
Bruno Le Thor.
Et le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Underneath the blue top ceiling, there are four antennas.
Alexandre Lévy a multiplié les chances des possibles sonores, troquant parfois son clavier pour plonger dans un univers polymorphe, nourri de ses multiples expériences en rencontres artistiques. Son catalogue est fait d'œuvres plurielles qui vont de l'œuvre vocale à l'électroacoustique, en passant par l'opéra de chambre et même par la chanson. Mais depuis qu'il a créé sa compagnie Acoustea en 2003, c'est l'installation sonore qui semble être devenue son champ d'expression. Art numérique, interactivité et musique contemporaine, extérieur et intérieur, du jardin à la friche sont autant d'écriture qui font d'Alexandre Lévy un compositeur à part, loin des sentiers battus. Il est l'invité de Tapage Nocturne. Bonsoir Alexandre Lévy.
Bonsoir.
Alors vous présentez le 8 décembre prochain Metaphone Memories, une pièce pour percussion et électronique, et Restitution sur la peau sonore du métaphone. Alors présentez-nous un peu ce projet en commençant peut-être par le métaphone.
Oui, alors le métaphone, c'est un bâtiment qui est au sein du 99 bis, qui est un des sites miniers classés par l'UNESCO, et qui a la particularité d'avoir à l'extérieur des murs vibrants qui sont en fait des murs de vibration qui diffusent du son dans tout le mur de la structure du bâtiment.
Vous étiez à l'origine de ce projet ?
Je n'étais pas vraiment à l'origine de ce projet. J'ai été invité pour justement développer et ouvrir ce bâtiment parce qu'il a été livré comme étant un outil en fait de diffusion clos, et j'ai assisté à, je dirais, j'ai aidé à ouvrir ce lieu, à ouvrir la régie pour que ça devienne un lieu de création. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis plusieurs années déjà.
Alors revenons un peu sur cette œuvre Metaphone Memories.
Ce qui est très marquant dans toute cette région, c'est qu'il y a beaucoup de sites miniers qui sont classés au patrimoine. Donc il y a des bâtis, un certain nombre de constructions complètement monumentales, parfaitement valorisées par plusieurs missions. Ces lieux sont totalement vides, on ne parle absolument pas et on ne fait pas du tout entendre les populations qui ont vécu là, et en particulier les populations immigrées qui sont venues pendant un siècle et demi pour travailler dans cette région. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas justement parler de ce patrimoine immatériel, ce patrimoine qu'on n'entend plus puisque les personnes ne travaillent plus sur ces lieux-là. La plupart des populations soit se sont complètement intégrées ou sont reparties, mais il n'y a pas vraiment je dirais de dommage rendu, enfin rien n'est vraiment très clairement identifié comme étant un patrimoine immatériel. Donc c'est ce que j'ai proposé au 99 bis et je leur ai proposé justement de travailler sur cette mémoire immatérielle. Vraiment, ça a été quelque chose qui a rencontré vraiment une résonance particulière en ce moment, étant donné toute l'actualité autour des migrants, des migrations qui frappent notre pays, particulièrement le nord de la France.
Thank you. vous avez collecté ?
Oui, on a fait un premier travail de documentation sur justement les populations principales qui ont travaillé sur le bassin minier. Nous avons collecté effectivement des enregistrements sonores, des archives audiovisuelles et aussi bien sûr on a vraiment cherché sur particulièrement sur le 99 bis les régions d'origine des personnes qui sont venues travailler et quelles étaient leurs habitudes musicales, leurs habitudes culturelles et ce qu'ils ont amené avec eux. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays étranger, quand on arrive en France, on n'arrive pas tout nu, on n'arrive pas, on nous habille pas d'un coup de culture française. On vient avec son passé, on vient avec sa culture qui la plupart du temps est là de manière inconsciente. Donc on a déjà fait une première recherche documentaire assez assez large, assez profonde, et donc j'ai proposé de créer des œuvres nouvelles à partir de ces archives documentaires.
Depuis quelques années, vous vous exprimez beaucoup par le prisme de l'installation sonore.
Oui, absolument. Parce que justement, ce qui m'intéresse aussi dans les installations, et le métaphone quelque part est aussi une installation, c'est de pouvoir déployer une œuvre musicale dans plusieurs temps. Il y a le temps du concert, bien sûr, avec la forme d'une œuvre musicale que le public vient d'écouter, avec un début, un milieu, une fin, si j'ose dire. Mais ça, pour moi, c'est une forme avec un temps donné, c'est une écriture, c'est une partition, mais ce n'est pas toute la partition. Et j'ai voulu proposer, et je propose depuis des années, une autre version de ces œuvres, ce que j'appelle les partitions virtuelles, qui s'expriment dans des installations sonores. Donc ça permet au public de réentendre les œuvres, réentendre les idées musicales et matériaux dans d'autres circonstances et dans d'autres espaces et dans d'autres échelles temporelles.
À l'origine, vous vouliez développer des jardins miniatures, pas plus grands que des petites assiettes.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien l'idée de bout de nature, de jardin, de quelque chose qu'on amène avec soi et qui nous relie quelque part à notre nature, en définitive. Et j'ai trouvé que c'est quelque chose de très touchant, justement, alors que nous sommes entourés de nature et que la nature est sans arrêt en mouvement autour de nous, mais on est tellement coupé de cette nature, enfin, on se croit tellement coupé de cette nature, que voilà, ça m'a toujours touché de voir ces petits jardins. Mais après, je me suis dit que ce qui était vraiment intéressant, c'était d'investir des jardins et d'investir des sites justement végétaux et de faire entendre justement ces œuvres musicales, une autre façon d'entendre l'espace qui est autour de nous et bien sûr avec un projet musical qui est celui du jardin de sensation, du jardin en mouvement, enfin tout le travail que je fais depuis des années.
L'un des éléments clés de votre approche de l'installation est sans nul doute l'interactivité.
Oui, exactement. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est... Enfin, ce qui m'intéresse aussi, on va dire, c'est de mettre le public au centre de mon travail. Évidemment, l'œuvre en elle-même, je la propose, je suis compositeur, donc je l'écris. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire entrer physiquement le public dans une œuvre, dans une proposition artistique. C'est pour ça que j'ai sollicité des technologies numériques et les technologies, justement, de l'interactivité pour que le public puisse éprouver par lui-même l'œuvre musicale. Alors, par le biais de sensations tout à fait physique, le fait de ressentir des vibrations, le fait de ressentir la caresse de l'air sur la peau, le fait d'être caressé par des éléments végétaux, disons, ça donne au public une autre manière d'aborder le son, une autre manière d'aborder l'œuvre musicale.
Vos installations se nourrissent également de performances. Il n'y a pas que le rapport au public, il y a aussi la performance.
Absolument. Parce que pour moi, il faut absolument qu'il y ait un temps de médiation. Pour moi, le concert, la performance, le spectacle, c'est un temps de médiation, c'est un temps artistique où des interprètes viennent donner justement cette première partition, qui est la partition, je dirais, originale, et qui viennent donner aussi leur présence sur un temps donné. Et ensuite, fort de cette expérience, le public peut à nouveau, par lui-même, rentrer dans les installations et éprouver par lui-même, physiquement, justement, les installations interactives, le son, la lumière, la vidéo aussi récemment.
J'ai lu que ces performances nourrissaient également la suite du projet.
Oui, exactement. Parce que, en fait, la plupart des performances que je propose à l'intérieur des installations nourrissent la trame musicale des installations. C'est-à-dire que à chaque performance, l'installation a, comment dirais-je, est re-remplie à nouveau et renouvelée par les sons et par la musique que l'on vient de jouer lors de la performance. Ça permet en fait d'injecter de la musique nouvelle et d'injecter à chaque fois des éléments de nouveauté, une fraîcheur dans l'installation qui est forte de ce moment de vérité qui est le moment du concert ou de la performance.
Vous allez plutôt vers l'éphémère ?
Oui et non, parce qu'en fait, il y a aussi des œuvres qui sont complètement écrites, donc avec des partitions, avec des clés de sol, des clés de fa déportées, que tout le monde peut interpréter. D'ailleurs, beaucoup d'interprètes jouent ma musique. Mais c'est vrai que voilà, je propose dans ce travail-là quelque chose qui est très singulier, quelque part. Mais en fait, les installations que je propose peuvent être diffusées sans moi, à d'autres lieux, c'était le cas en Asie cette année, ça va être le cas au Moyen-Orient dans très peu de temps. Donc c'est là l'épreuve du public, l'épreuve du temps au public ne m'appartient pas forcément. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, je livre un travail et ensuite c'est le public et les interprètes qui le prend à bras le corps et l'éprouve quelque part.
Vous parliez de l'Asie, vous étiez à Taipei. Est-ce que la perception est la même ? Est-ce que le public perçoit de la même manière vos installations ?
Alors non, c'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est vrai que les diverses installations que j'ai fait à Taïwan, dans ces installations, je suis vraiment aperçu qu'à chaque fois, l'œuvre artistique était quelque part un peu sanctuarisée. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on explique réellement au public qu'il pouvait rentrer dans les installations, qu'il avait le droit de toucher, qu'il avait le droit d'interagir, ce qui n'était pas du tout naturel pour eux. Ils restaient complètement autour des installations, ils essayaient d'en faire le tour, ce qui n'était pas forcément simple. Et justement, il a fallu faire un travail justement avec les personnes chargées du public, les personnes chargées de la médiation culturelle, pour que le public ose rentrer en interaction, ose toucher surtout, c'était surtout ça l'enjeu, et ose être en contact physique avec l'œuvre proposée. Donc c'était tout à fait, il y avait un vrai choc des cultures à ce moment-là, mais tout à fait. Thank you.
Difficile d'évoquer votre itinéraire sans parler du lien avec le jeune public.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas plusieurs publics. Il y a un grand public qui contient plusieurs âges, plusieurs classes sociales, etc., etc. Mais je dirais que pour moi, c'est, en tant qu'artiste, n'est pas tellement mon problème. Ce que j'essaye plutôt de proposer, c'est justement de pouvoir adapter les formes, de pouvoir adapter les mises en condition qui font que tel ou tel public sera capable de recevoir mon œuvre. C'est plus une question de mise en condition, pour moi, et de mise en forme qui diffère, plutôt que le fond de l'œuvre, en quelque sorte.
Alors je rappelle, on vous retrouve le 8 décembre prochain avec une création, Métaphone Memories, une pièce pour percussion électronique et récitation sur la peau du métaphone. Ça sera au 99 bis à Wany.
Oui, le 99 bis à Wany, avec une journée de colloque organisée par le 99 bis et Futur Composé autour de la thématique patrimoine et création.
Merci beaucoup Alexandre Lévy.
Merci beaucoup.
À bientôt.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Au chapitre des nouveautés discographiques, à noter la parution de Close Up, un opus qui réunit 5 musiciens sous la houlette éclairée de Claude Evans Janssens. Construit comme un recueil de nouvelles, ce disque raconte des histoires, un chapelet de 10 histoires comme des films imaginaires. De travelling en plan séquence, cet enregistrement enfourche les ailes du lyrisme. Et pour nous parler de cet opus, nous avons reçu Claude Evans Janssens.
Thank you.
Bonsoir Claude Janssens.
Bonsoir.
Alors vient de paraître Close Up, votre nouvel opus discographique. Nouvel opus car ça faisait longtemps que vous n'aviez pas signé un enregistrement.
Oui, ça fait longtemps parce que j'ai accepté des responsabilités dans le secteur culturel. Je me suis occupé d'une grosse association pendant beaucoup d'années. Et puis, le besoin impérieux de retourner à la composition, à la musique en général, s'est fait sentir. Et donc, j'ai renoncé à ces fonctions et je me suis remis à écrire, ce qui est un bonheur sans mélange.
Comment avez-vous conçu cet enregistrement ?
Alors voilà, me remettre à la composition, faut savoir qu'auparavant j'étais plutôt dans un domaine rock, rhythm and blues, soul, et ici je voulais faire de la musique instrumentale. Alors ça n'a pas vraiment bouleversé le registre dans lequel je travaillais auparavant, parce que la musique soul est quelque chose qui, que ce soit dans la catégorie rhythm and blues ou dans, je dirais, américaine, vocale, ou dans le jazz, le soul jazz est un jazz évidemment, qui a existé et qui existe encore, ce créneau est resté le mien et je fais ce que j'appellerais de la soul music version jazz.
Thank you. Vous avez également un autre terme pour qualifier cette musique, votre musique, c'est musique de films imaginaires.
Oui, c'est plutôt... Moi, j'utilise de plus en plus souvent le terme soundtrack jazz parce que je pense que c'est assez illustratif de la musique que j'ai faite pour ce quintet, qui par ailleurs n'a rien à voir avec d'autres musiques où je fais des choses tout à fait différentes, mais voilà, on parle bien de celui-là. C'est une musique très narrative. Bon, alors c'est pas de la musique descriptive, je ne suis pas comme on faisait dans les œuvres symphoniques descriptives avec un livret, mais simplement c'est de la musique évocatrice. Évocatrice de scène. J'avais pensé appeler l'album d'ailleurs Stories, parce que je pense que chaque morceau raconte une histoire. Finalement, je l'ai appelé Instant, ce qui revient un peu au même. Ce sont des photographies, d'ailleurs le groupe s'appelle Close Up, c'est pas pour rien, des gros plans. Et voilà, c'est ça qui me plaît, c'est de raconter des histoires. Et du coup, je suis dans un registre d'écriture qui est tout de même assez tonal, enfin il est plutôt modal, mais donc je reste pour le moment dans quelque chose très organisé thématiquement, et la musique est, je dirais, à au moins 50% écrite.
Comme ça aussi long, est-ce que ça vous donne un rapport à la musique, un rapport à la composition différent? Est-ce que vous vous retournez sur un passé et vous essayez d'aller vers une autre voie, ou est-ce que c'est la continuité pour vous, comme s'il n'y avait jamais eu cette période d'arrêt?
Alors il y a une continuité, cette continuité c'est c'est assez difficile à nommer, mais donc le feeling soul, voilà, je ne peux pas appeler ça autrement, est resté. À l'époque où j'écrivais la musique, j'ai toutes sortes de groupes bon, qui l'interprétaient, ce que j'écoutais en jazz, c'était par exemple Eric Kloss. Alors je suis toujours très heureux de pouvoir parler d'Eric Kloss parce que personne ne le connaît en Europe. c'est triste au possible, parce que c'est un musicien absolument magnifique. Donc, dans le livret de l'album CD, j'ai fait un petit hommage à Eric Kloss. C'est un saxophoniste qui s'est exprimé avec une force soul absolument fantastique. Bon, il a joué avec Jack DeJohnette, Chick Corea et tout ça, hein, c'est pas peu de choses. Mais toujours avec cette force, une espèce de... Lisez l'interview d'un pianiste classique qui disait « Chaque fois que je joue, j'ai l'impression que c'est une question de vie ou de mort. » Et donc cette espèce d'expression d'urgence, eh bien ça c'est ce que je poursuis dans ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a une continuité de ce point de vue-là. Par contre, je veux faire de la musique instrumentale, que je laisse de la place à l'improvisation alors qu'autrefois il n'y en avait pas, puisque c'était surtout des compositions vocales et qu'à ce moment-là, bon ben forcément il faut organiser tout, il y a le texte. Mais ici donc il y a de la place pour l'improvisation. J'aime jouer avec une dimension à la fois d'écriture qui est très mélodique, harmonique, etc. Et à la fois sur des éléments d'improvisation qui sortent tout à fait de ce cadre.
Claude Janssens, il y a une théorie que vous appelez, vous, la théorie du grain de sable.
Alors, voilà, c'est un principe que j'applique à tout ce que je fais, et notamment à la musique de l'album qui va sortir de Close Up 5. Thématiquement et harmoniquement, c'est assez, je ne vais pas dire conventionnel, mais je veux dire, tout le monde écoute ça sans difficulté. Et j'aime alors introduire le grain de sable, c'est-à-dire que je vais orienter à un certain moment dans le morceau les choses pour que l'improvisation qui va se faire soit très éloignée du cadre harmonique d'origine et que quelque chose se passe qui est dérangeant, que ça parte comme le free jazz peut dérouter bien entendu les auditeurs. La différence c'est que dans le free jazz, ben, il n'y a que des grains de sable. Moi, je pense pouvoir mettre fort en valeur le grain de sable parce que, puisqu'on est dans un contexte très rassurant sur le plan mélodique, etc., le grain de sable, évidemment, prend une importance toute particulière quand il se produit. Et donc, ce sont ces dérapages qui m'intéressent parce qu'à ce moment-là, l'auditeur est un petit peu captif, il est un petit peu pris au piège de ce morceau qui l'a emporté et tout, et puis d'un coup, il se passe quelque chose qui dérape complètement et il se dit, ça pose question. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir provoquer un questionnement, même quand on n'est pas dans des musiques extrêmement libres comme le free jazz. We'll be right back.
Vous travaillez en ce moment sur un autre concept d'écriture. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Au départ de compositions que j'ai faites, qui sont des thèmes personnels, qu'on peut considérer comme étant du jazz, j'ai intégré des thèmes de jazz, des standards connus de Coltrane, de Duke Ellington, de Miles Davis, etc. Mes compositions pour ce projet s'inscrivent dans un contexte tout à fait modal, donc sur le plan harmonique, très peu d'accords, parfois que deux ou trois accords dans le morceau, et au niveau rythmique, c'est une rythmique binaire et non pas ternaire comme en jazz habituellement. Et donc l'intégration de certains thèmes comme de Duke Ellington, etc., complètement écartés de leur contexte harmonique d'origine, puisque le contexte harmonique d'origine, c'est plein d'accords, c'est une grille d'accords avec toutes sortes de changements au fil du morceau. Ici, on est sur deux, trois accords, comme je le disais, et donc les thèmes prennent une coloration tout à fait étonnante, au point que certaines personnes, je ne dis pas les super connaisseurs, mais des personnes qui sont simplement amateurs de jazz, ne reconnaissent pas le thème tellement il est métamorphosé par le contexte harmonique. Voilà, il y a aussi des moments où ces thèmes se mélangent, se superposent aux miens de manière contrapuntique, et ils subissent toutes sortes de transformations au fil du morceau. J'appelais ça des polymorphoses, puisqu'il y a plus qu'une métamorphose qui se produit au cours du morceau, c'est plusieurs métamorphoses polymorphoses.
Merci beaucoup Claude Janssens, et à bientôt.
Avec plaisir.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. Derrière la console était Éric Boisset, attaché d'émission Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure de retrouver Création Mondiale, Dan Montaron.
À réécouter sur francemusique.fr.